Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, nous revoici dans Deep Impact, le podcast tennis d'Eurosport. Je suis Sébastien Petit, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, un jour inhabituel. Nous sommes mercredi, quelques minutes après la finale de Pékin, avec notre consultant Arnaud Di Pasquale. Comment vas-tu ?
Salut Seb, très bien, je te remercie.
À nos côtés cette semaine, un journaliste de la rédaction qui a suivi ce tournoi pour Eurosport.fr, Maxime Battistella. Comment ça va ? Pas trop déboussolé par ce calendrier un peu...
Un peu déboussolé, oui. Un mercredi pour une finale, ça change, mais enfin bon, tout va rentrer dans l'ordre à Shanghai.
Et oui, donc exceptionnellement, une finale ATP est jouée un mercredi. Bon, alors pas simple de tourner une émission qui sort sur l'actu le mardi, donc merci pour cet effort d'adaptation au peu du temps. Au menu de cette émission, le titre tout frais, donc de Yannick Sinner à Pékin face à Daniil Medvedev, une victoire pour le moins surprenante, hein, nous y reviendrons. Celui d'Adrien Manarino, aussi à Astana, le voici à deux titres cette saison à 35 ans évolue. Il fera l'objet de la stat de la semaine de notre partenaire Je7Math, à suivre sur les réseaux sociaux, et bien sûr, l'œil de Deep pour finir. Avant de rejoindre Shanghai, vous avez le sommaire, nous n'allons pas perdre de temps, je crois que les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti. Alors messieurs, on va entrer donc dans le vif du sujet avec ce titre à Pékin d'Yannick Sinner un mercredi. Alors rapidement, pourquoi un mercredi ? Donc a débuté le Masters 1000 de Shanghai ce mercredi, ce même jour, pour le tableau principal en tout cas, parce que les qualifs, eux, battent leur plein depuis un moment. Et il s'étend sur 10 jours, ce tournoi de Shanghai, comme le veut le règlement des Masters 1000, le nouveau mis en place par l'ATP l'an passé, qui va donc s'étendre jusqu'au dimanche 15 octobre. Voilà. La semaine pékinoise a donc souri à Yannick Sinner, alors bluffant, dans la capitale chinoise, Arnaud. Deux victoires impressionnantes sur Alcaraz en demi-finale et Medvedev en finale il y a donc quelques instants. L'Italien était assez décevant à l'US Open avec une défaite en huitième. Là, il gagne son troisième titre de la saison sur dur en étant, on peut dire, impérial.
Ouais, alors en étant impérial, après, moi, globalement, en fait, je trouve sur la progression de ce joueur, je la trouve très intéressante parce qu'il reste fidèle à ce qu'il souhaite mettre en place depuis le début, en fait. Et ça, je trouve qu'il ne déroge pas à ses propres règles. J'ai le sentiment qu'il y a cette volonté toujours de couper les trajectoires, de jouer tôt, d'être parfois peut-être même un peu à trop vouloir jouer trop vite. Alors, c'est peut-être ce qu'on pourrait lui reprocher parce qu'il peut se mettre parfois à faire des erreurs. Mais en revanche, quand ça se met en place, on se dit que c'est un petit peu comme cette semaine. Voilà, il peut vraiment faire des dégâts et battre tout le monde, mais il y a quelques points encore parfois de fragilité, et en effet, alors c'est pas décevant parce qu'en fait il est arrivé très jeune sur le circuit, mais il continue d'avancer, il continue de progresser, donc déjà ça c'est un vrai point fort je trouve chez lui, qu'il doit absolument conserver. Je sais pas combien il va se retrouver, quel claquement il va se retrouver pardon prochainement,
4,
probablement 4,
hein. Ouais. Meilleur classement en carrière,
ouais. Il avance, et ouais, donc c'est exactement ça. On sent qu'il est convaincu de ce qu'il fait. On sent que mentalement, il progresse aussi. Hein, donc, il y a moins justement de haut et de bas. Ça fait partie aussi justement des choses qu'il devait régler. Et je n'ai pas vu le match contre Alcaraz. J'ai lu simplement, j'ai cru qu'il y a un très gros premier set et un deuxième beaucoup plus rapide. En revanche, contre Dimitrov, il y a eu des passages absolument vraiment fantastique, je trouve, en termes de qualité de jeu, parce qu'il y a eu un Dimitrov aussi qui a été très bon par moment. Et sur cette finale, la manière dont il a réussi quand même à manœuvrer, à tenir deux tie-breaks, c'est quand même difficile de tenir face à un Medvedev, hein, qu'on connaît, hein, sur ce genre de surface. Donc, je trouve que dans tous les secteurs du jeu, il est en train de progresser, de monter. Ce qui peut lui manquer, c'est encore une fois les gros résultats en grand chelem, clairement. Mais
Il fait une demi-finale à Wimbledon cette année.
Non, mais sur ce genre de joueur aujourd'hui, je pense qu'il ne peut pas se satisfaire de ça. Je pense que c'est finale et victoire. Maintenant,
Après, c'est les
rendre.
adversaires, effectivement. Parce
Bien
qu'à
sûr.
Wimbledon, il avait un parcours quand même relativement facile jusqu'à Djokovic en demi-finale.
Ouais, je crois qu'il ne joue
Bien
pas un top
sûr.
70, hein, c'est ça. Pas un top 70 avant les
Mais
demi-finales.
en tout cas, il est sur la bonne trajectoire. Je trouve qu'il est dans le vrai, en fait. Et y a des moments où vous pouvez perdre, mais vous savez que vous avancez, en fait. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça ou compliqué à intégrer, mais c'est aussi une réalité. Il y a, moi, je suis convaincu de ça. C'est-à-dire que le fait parfois d'accepter de jouer d'une certaine manière pour que les choses se mettent en place, et le jour où ça se met en place, là, c'est plus une progression linéaire, c'est vraiment un palier que vous passez, et c'est ce qui fera la différence, et c'est ce qui lui permettra probablement là, de remporter des grands titres. Et quand on dit grand titre, quand on passe quatrième mondial, c'est évidemment d'aller chercher la plus haute marche dans les grands chelems. Donc moi, je l'ai trouvé ouais, remarquable à bien des égards, parce que et mentalement et physiquement, là, il y a eu quand même quelques points. Alors, OK, j'écoutais les commentaires donc d'Éric Deblicquière et de Bertrand Millard, excellentissime, mais qui de temps en temps pouvaient dire, ah, mais la volée de Medvedev n'est pas suffisamment tranchante. OK. Mais le passing, il était quand même dur à tirer souvent. Et moi, j'ai trouvé qu'il allait à une vitesse là, il se déplaçait super physiquement. J'ai trouvé que c'était un avion.
Et on peut aussi souligner la tactique quand même adoptée face à Medvedev. C'est assez intéressant de le voir. On voyait qu'en gros, il montait au filet dès qu'il en avait l'occasion. Ce qui n'est pas sans rappeler un certain Djokovic aussi en finale de l'US Open. Maxime, on voit aussi là, il sait enfin peut-être s'adapter aussi à ses adversaires, parce que mine de rien, face à Medvedev, il restait sur 6 défaites
C'est
face à
ça.
lui.
Il avait jamais réussi à battre Medvedev en 6 confrontations. Pire encore, il lui avait pris 3-7. Donc, tous les deux matchs, il se faisait battre à plate couture, si on veut résumer un peu. Donc, il y a une vraie évolution. Alors, moi, je dirais pas enfin. Je dirais qu'il apprend à son rythme et que, comme Arnaud le disait, il est très cohérent. Il est cohérent dans ce qu'il fait, dans son plan de jeu, dans son approche tennistique.
Rassure-moi, Max, j'ai pas dit enfin. J'ai dit enfin?
Non,
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 j'ai
non,
pas
non,
dit. Ah non,
c'est
parce que moi, c'est
Sébastien.
comment? Ah, c'est
Moi
Sébastien.
non plus,
Non,
j'ai
parce
pas
que
dit
moi, c'est
enfin. T'as pas
exactement
dit
ce que
enfin?
je pense.
Non.
Je
Il
pense
s'est
comme
enfin
toi, Max.
adapté, enfin, je sais pas.
Non,
Peu
mais
importe.
je pense
Peu importe.
comme toi.
Mais peu importe,
Pense
peu
comme toi, c'est une progression assez linéaire aujourd'hui, finalement.
importe.
Et finalement, enfin, ce que je veux dire, c'est pas le enfin, justement, au contraire.
Moi, je disais enfin
Ça
par
se met en
rapport à
place.
Medvedev. Voilà.
Oui, tu as
Aussi.
raison, tu as raison.
La tactique
Non, non.
adoptée face à lui.
Exactement. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette cohérence, il y a une cohérence dans son approche du jeu, dans tous les domaines. J'irais même dans le domaine tactique, il y a l'apport de Darren Cahill depuis quelques mois. Il s'est aussi mis avec un entraîneur que personne connaissait vraiment, Simone Vagnotti. Bon, tout le monde s'interrogeait sur ce choix, et en fait, il a construit une équipe qui lui convient très bien, qui n'est pas forcément au départ, avant l'arrivée de Cahill, qui n'était pas forcément, comment dire, bankable, tout ce qu'on peut dire là-dessus, mais il sait ce qu'il fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il comble ses manques, ses petites failles, petit à petit. En début de carrière, moi, je voyais beaucoup Sinner comme un Berdych 2.0, un type qui a une qualité de frappe des deux côtés extraordinaire. T'as l'impression qu'il force pas et que la balle va à une vitesse incroyable et qu'elle est lourde, ça. Et peu à peu, je trouve que techniquement, il ajoute des éléments, des cordes à son arc qui le rendent encore plus complet et de plus en plus injouable. Il y avait une comparaison très intéressante que tu faisais, Sébastien, avec Djokovic. Oui, Djokovic avait fait cette tactique du service volé pour exploiter la position reculée de Medvedev. Mais de Djokovic, il a aussi maintenant, je trouve, de plus en plus cette qualité de relance incroyable. Contre Alcaraz en demi-finale, il a systématiquement relancé ou quasiment systématiquement relancé les premières d'Alcaraz. Et à chaque fois, les balles arrivaient à 10 cm de la ligne de fond. Donc c'était très profond, très lourd. Et Alcaraz n'avait pas l'occasion de faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire d'agresser en permanence.
Et
Donc Sinner, de ce point de vue-là,
sur cette
ouais.
finale aussi, il termine sur un retour gagnant. Donc,
Exactement.
ce qui
Exactement. Et très, très, voilà, très, très proactif. Dès qu'il a l'occasion d'avancer, il avance. Contre Alcaraz, dans le tie-break, la balle de tie-break, c'est aussi un retour gagnant, pareil, sur une seconde balle, et il s'engage à fond. Donc, il y a une logique et une volonté d'aller vers l'avant, d'utiliser sa puissance et en plus de le faire intelligemment en concluant au filet. Je trouve qu'il a vraiment maintenant plein de cordes à son arc et beaucoup d'atouts pour s'installer dans ce top 5 mondial et espérer en effet faire mieux en Grand Chelem l'année prochaine.
On soulignait dans une émission précédente que l'Italien était donc effectivement la déception de l'US Open. Bon, visiblement, il nous a sagement écoutés car sa réponse n'a pas tardé. Mais on regarde aussi que face aux top 3 mondiaux, il commence à avoir des victoires importantes. Et notamment la deuxième sur Alcaraz cette année, déjà sur dur. Est-ce qu'on peut parler de déclic vraiment cette année ou est-ce que c'est pas son cas, pardon?
Moi, je ne crois pas. Hein. Je reviens sur la formule que Max a adoptée de dire il comble certaines failles au fur et à mesure. C'est exactement ça. Au départ, quand il est arrivé, il nous a quand même tous bluffés dès le départ.
Bien sûr.
Par sa jeunesse, sa fraîcheur, son envie d'aller vers l'avant, sa qualité de frappe, évidemment, des deux côtés. Des deux côtés, c'est droit-revers, c'est quand même phénoménal. C'est remarquable. Mais en effet, il y avait plein de points de fragilité. C'est normal parce qu'il est arrivé très jeune sur le circuit. Et là, c'est exactement ça, avec la dimension tactique que vous avez évoquée, qu'il est capable de mettre en place, en fait. Et tous les joueurs ne sont pas capables aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un joueur de plus en plus complet aussi. Il a fallu peut-être, quand on a autant d'armes malgré tout, il faut réussir à bien s'en servir aussi. Il faut réussir à canaliser un peu cette envie, ce tempérament,
Ou les sortir
ce
au bon moment,
caractère.
tu vois, quand je parlais
Non,
de
mais bien
déclic.
sûr, mais tu vois, et là aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est moi le sentiment que ça me donne comme ça, c'est quand tu dis enfin, alors c'est enfin ça se met en place. Tous les ingrédients commencent à prendre forme et l'alchimie commence à opérer en fait. J'ai vraiment cette sensation. Ça ne veut pas dire que, au regard de son jeu, qui est quand même à risque, il ne passera pas à côté de temps en temps. C'est pas aujourd'hui, il a un niveau de jeu moyen très élevé. Mais après, contre le top 10, les tout meilleurs et tout ça, de temps en temps, avec ce jeu, il va non pas forcément passer à côté, mais être un peu moins bon parce qu'il y aura des jours où il sera un peu moins en confiance, un peu, mais il continuera à jouer de cette manière, parce que de toute façon, c'est de cette manière qu'il va pouvoir battre les Medvedev et Djokovic et compagnie, et Alcaraz. Et
Oui,
ça, c'est une évidence.
alors est-ce que
Exactement.
tu
Et
as bluffé
puis.
Sinner face à Alcaraz parce que cette victoire-là, elle est quand même épatante?
Oui, il m'a bluffé et en même temps pas tellement. Je m'explique. Il a le jeu et on l'avait vu lors des face-à-face précédents pour embêter Alcaraz. Et même mieux que ça, presque, j'irais pas le museler, mais en tout cas, il a de quoi faire. Ce qui est très très marquant dans ces joutes entre les deux, c'est que ça ressemble à des combats de boxe. C'est à qui frappera le plus vite, le prendra la balle le plus tôt. La balle et assènera le coup le plus dur, le plus violent. C'est en termes d'intensité, c'est assez époustouflant, hein, d'assister à ça. Alors, pour les puristes, ça peut être parfois un peu too much, mais en termes d'intensité, c'est assez extraordinaire. Donc, ce qui est frappant quand il l'affronte à Alcaraz, c'est qu'il n'a pas de complexe. Il se dit pas, il n'a pas peur de lui. Ça se voit. Et ça, c'était vu déjà lors de leur chef-d'œuvre commun à Flushing Meadows l'année dernière, hein, en 2022. Ce quart de finale de 5 heures fantastique, au cours duquel, faut le rappeler quand même, Sinner avait eu une balle de match. On va pas refaire l'histoire, mais imaginons qu'il ait battu Alcaraz lors de ce quart de finale. Vu les adversaires qui restaient dans le tableau, il n'aurait pas été fou d'imaginer qu'il aille chercher son premier grand chelem. Donc, c'est un type qui a de toute façon une base tennistique, un niveau de jeu moyen, comme le disait Arnaud tout à l'heure, qui est extrêmement élevé. Et on parle de déception cette année à l'US Open. Bon, il a fait un huitième de finale, perdu en 5-7, d'une énorme intensité contre Zverev, qui est sur le chemin vraiment du retour. C'est vrai que que son statut, son classement supérieur faisait de lui le léger favori de ce match. Mais c'est pas non plus une déception extraordinaire. Il a perdu en demi-finale contre Djokovic à Wimbledon, certes en 3-7, mais bon, c'est Djokovic. Donc, tout est relatif quand on parle de déception avec Sinner. Le seul palier, à mon avis, qu'il doit franchir encore, c'est même plus en termes de niveau de jeu, c'est en termes d'endurance physique. Arnaud parlait de son physique impressionnant, de sa vivacité à Pékin, qui est fantastique. Il a beaucoup d'explosivité, je suis d'accord. Il a beaucoup progressé dans ce domaine-là. Par contre, sur la longueur, il faut encore qu'il franchisse un palier. Parce qu'en Grand Chelem, tous ses matchs épiques, tous les matchs de plus de 4 heures de jeu en 5-7, il les a perdus. Et c'est, à mon avis, le palier qu'il doit franchir en 2024. Mais sinon, en termes de niveau de jeu, pour moi, il est à la hauteur maintenant. Enfin, sa place dans le top 5, elle n'est pas du tout usurpée. Et pour moi, il est au-dessus des Tsitsipas, des Runeux, même de Zverev, même si Zverev a eu une circonstance atténuante avec sa blessure et qu'il est sur le chemin du retour.
Moi, ce
Après,
que je
oui,
pense,
vas-y.
Seb, juste une petite chose. Tu vois, parmi tous les joueurs et tous les meilleurs, je pense aux adversaires qui jouent, par exemple, les top 10. Parmi les top 10, il y a des joueurs contre qui, enfin, tu sais que ça va être dur contre chacun d'entre eux, mais il y a des jeux différents. Et il y en a certains contre qui tu te dis, je vais quand même pouvoir jouer. OK? Je m'explique, tu vois, un Tsitsipas, je pense que tu peux engager l'échange, tu peux jouer. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner, que ce n'est pas dur. Je pense que dans l'absolu, alors Djoko, c'est encore autre chose, mais il y a presque ce truc de. Medvedev aussi, tu vois. Lui et Alcaraz, en fait, ils ont une telle volonté d'asphyxier leurs adversaires dès les premières balles du match que c'en est un peu flippant,
Ouais.
en fait. Et que tu dois te dire, oula, ok, là, s'il est en forme, je vais devoir physiquement être un avion, jouer mon meilleur niveau. En fait, c'est presque des jeux un peu, enfin, je sais pas, un peu à la Agassi à l'époque, qui était un des premiers probablement à jouer de cette manière, où
En
vraiment
demi-volée constamment du
où tu
fond.
disais, je vais être asphyxié. Mais asphyxié, pas à 3 partout, pas à 4 partout, parce que ça aura duré, parce qu'un Nadal, par exemple, il vous a à l'usure, ça fait 2 partout en 45 minutes. Et ça fait deux, hein, en 1h12. Bon, voilà, en gros. Mais ce que je veux dire, c'est que là, lui fait partie de ces joueurs flippants dans le sens où, OK, il va me sauter à la gorge au sens propre du terme et il va plus me lâcher, jamais. Et c'est ça qui est, honnêtement, je pense, qui est très dur contre certains joueurs qui jouent aussitôt, qui ont cette volonté de prendre les initiatives, de vous rentrer dans l'art. Là, tu parlais, je ne sais pas, de joute et de combat de boxe parce que c'était un. Et c'est exactement ça. Il vous en met plein la figure. Alors, il y a des fautes, parfois, mais en fait, il n'y a pas une seconde de répit, jamais.
Est-ce que tu me dis, ça me rappelle ce qu'on dit beaucoup de joueurs qui ont affronté le Big Three et qui comparaient, Nadal, qui mettaient Nadal et Djokovic d'un côté et Federer de l'autre. Ils disaient que contre Federer, quand il était dans un bon jour, bah en fait on voyait pas la balle passer, ça allait trop vite, on n'avait pas le temps de jouer, on pouvait pas jouer en fait. Alors que contre Nadal et Djokovic, même si ces joueurs-là se faisaient éclater par ces deux monstres, au moins ils avaient l'occasion d'échanger un peu de ça. Et Alcaraz et Sinner ont cette caractéristique-là qu'avait Federer, c'est-à-dire cette volonté de prendre tout de suite l'adversaire à la gorge, de pas lui laisser le temps de s'exprimer.
Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que Alcaraz, après sa demi-finale perdue donc face à Sinner à Pékin, il avait dit ça. Il m'a obligé à changer un peu mon jeu et j'ai pas pu faire en gros ce que je fais d'habitude. J'ai essayé de jouer plus long, mais ça, j'ai pas réussi. Et c'est aussi ça que je dois travailler si je veux battre Yannick Sinner. Apparemment, il a trouvé son talisman, hein, quelque chose, sa kryptonite aussi quelque part. Et ça fonctionne parce que c'est quand même la quatrième fois que Sinner bat Alcaraz dans sa carrière et aucun joueur du circuit n'a réussi à le faire avant l'Italien. Donc c'est.
Ça va donner du sel à ce duel. On connaît le caractère déjà de champion d'Alcaraz. Donc, il va vouloir sa revanche, il va vouloir trouver des solutions. C'est quelqu'un qui apprend très, très, très vite. Donc, cette rivalité, à mon avis, va nous tenir vraiment en haleine. Et puis, oui, peut-être qu'Alcaraz est dans une phase comment dire, où il remet un peu les pieds sur terre depuis son titre à Wimbledon. Je trouvais que malgré sa finale extraordinaire contre Djokovic à Cincinnati, la moyenne de ses matchs depuis Wimbledon, son niveau est un peu plus, je ne vais pas dire décevant, mais un petit peu plus bas que ce qu'il nous avait donné en première partie de saison. Je pense que justement, ce titre si inattendu à Wimbledon où il a quand même battu le maître des lieux en 5-7. Ça lui a pris une certaine énergie. Et on l'a vu dans ce deuxième set contre Sinner, comme on l'avait vu dans le deuxième set de sa demi-finale contre Medvedev à l'US Open. Après ce tie-break perdu, il y a une sorte de décompression, d'agacement contre lui-même. Donc bon, je me fais pas de soucis pour lui, hein, il apprend très vite. Mais c'est intéressant, il y a un petit replat, on va dire, chez Alcaraz.
On va passer à un autre joueur qui a aussi brillé cette semaine, c'est Adrien Manarino, à travers la stat de notre partenaire. Adrien Manarino s'est imposé donc en finale d'Astana face à Sébastien Corda. Le voilà avec 4 titres au compteur, son deuxième de l'année, et tous ont été remportés après ses 30 ans, moment de sa carrière où tout a basculé. Et donc la stat est la suivante, 10 finales sur 14 ont été jouées par Adrien après ses 30 ans, ça fait donc 71% entre elles, et aucun joueur n'a enregistré un ratio plus important entre ses finales pré-trentaine et ses finales post-trentaine, si on peut dire ça comme ça, depuis la création de l'ATP Tour en 1990. Et évidemment, on prend cette statistique parmi les joueurs ayant disputé au moins 5 finales dans leur carrière. Donc Arnaud, on a l'impression que s'éclater à 30 ans passés sur le circuit, ça devient de plus en plus courant.
Ça devient banal, j'ai envie de te dire.
Voilà.
Non, mais
si t'as pas
après,
30
faut
ans,
pas.
bon.
Bah ouais, bah il faut attendre. Adrian, on ne mesure pas à quel point c'est exceptionnel ce qu'il fait. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être pas le jeu le plus spectaculaire, on est d'accord, mais c'est exceptionnel de jouer déjà avec une raquette tendue à 11 ou 12 kilos. Je ne sais pas
Même
si
10,
vous
même
savez.
10, c'est délirant, ça.
C'est délirant. C'est délire de réussir à sentir la balle comme il la sent, sa qualité d'œil, donc ce toucher de balle qu'il a, ce revers rasant qu'il est capable de passer à chaque fois à 1 cm de filet, enfin sur chaque frappe. Moi, je suis assez bluffé par son parcours. Et alors, la question, finalement, c'est de se dire pourquoi aussi fort après 30 ans? Je crois qu'il a mis beaucoup de temps à prendre confiance en lui, à vraiment avoir confiance en lui, ce joueur. Et je me rappelle de ses premiers grands résultats, et à l'époque, il était entraîné par Jean-Christophe Forel, notamment, et j'ai échangé un petit peu avec eux. Et le retour de ce que j'en comprenais, c'était qu'il avait besoin d'avoir confiance. Pourtant, moi qui l'ai côtoyé quand il était plus jeune, on a toujours vu une sorte de génie. Il a du génie, il a un truc exceptionnel dans la raquette, vraiment. Ça, il l'a toujours eu, cette qualité de retour incroyable. Et ce sens du jeu, évident. Mais il a mis du temps, en fait, à intégrer tout ça. Et en fait, c'est une question de parcours et de prise de conscience et de travail. Puisque moi, quand je lis, là, j'aime beaucoup son interview là dans l'équipe, où il dit plusieurs choses, mais il y a une chose où il dit, je savais que plus ça durerait, plus ça tournerait à mon avantage. Bon, c'est quand même un mec de 35 ans qui dit ça face à un gamin. Qui a 12, 13 ans de moins, je sais pas,
Oui,
un truc comme
c'est
ça,
ça.
je me dis que c'est assez marrant ça. Alors il y a évidemment le principe de l'expérience, ok, j'entends, mais là il parlait de physique. Et donc, eh ben, il est devenu 10 fois plus rigoureux sur tous les aspects de la préparation. Tous. Et ça, il en parle aujourd'hui. Il dit, je suis content, ça paye parce que je suis devenu un, c'est bizarre, on pourrait dire professionnel, un immense professionnel en fait. Tout est structuré, millimétré dans sa prépa. Et ça fait la différence. Et je crois que c'est difficile de le mesurer et d'en prendre conscience quand tu es jeune, sauf exception. Sauf exception, évidemment. Sauf quand tu as des qualités supérieures, exceptionnelles dans certains secteurs, le physique, la qualité de forme. Voilà. Mais quand tu n'es pas enfin, naturellement enfin, aussi fort voilà, que ceux qu'on connaît. Et qui débarquent, qui sortent de nulle part, les ovnis à l'Alcaraz, mais même des Gasquet, des machins. Je veux dire, les autres, les arrivées assez classiques, comme ça a été le cas pour lui, bah c'est des prises de conscience, c'est du travail, et c'est
Est-ce qu'il
donc
n'y a
de la
pas aussi
confiance.
un peu une pression aussi du résultat quand tu arrives sur le circuit? Parce que là, il parle aussi beaucoup de plaisir. Hein. Tu vois, il joue avec en étant presque plus relâché qu'avant. Et est-ce que ça
Et
joue
ça?
aussi?
Avec le ça, alors ça peut se, évidemment, c'est le temps qui passe, et ça, oui, probablement que de se dire, et ça, on voit près tous les joueurs qui sont vraiment qui se rapprochent de la sortie, de la fin, où cette dimension du plaisir elle est de plus en plus présente parce que tu as envie de kiffer ces derniers moments, tu as envie de te dire que cette communion avec le public, tu la veux, tu as envie de te dire que chaque instant est à savourer parce que bientôt ils n'y seront plus, et ça, c'est pareil dans ta carrière. Tu ne peux pas le ressentir tant que tu n'es pas proche de la sortie. C'est impossible. Tu ne peux pas te l'inventer. Tu ne peux pas te dire, j'ai 25 ans. Et si je me disais que j'arrêtais l'année prochaine pour ressentir ça, c'est impossible. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas. Donc en fait, ouais, à 35, 36 ans, tu te le dis, mais comme on voit un Wawrinka prendre autant de plaisir, comme on voit Andy Murray prendre du plaisir dans des carrières évidemment très différentes, hein, encore une fois. Mais cette dimension et cette notion de plaisir, et moi je repense même à Pioline, Grosjean, plein de joueurs français qui, sur la fin de leur carrière, qui étaient plutôt, j'allais dire, c'est pas introverti, mais un peu fermé sur le terrain, se sont complètement ouverts sur la fin de leur carrière, et tu les sentais à vouloir prendre cette énergie parce que c'était la fin et que cette façon presque de dire au revoir, t'as envie de remercier tout le monde. Enfin, c'est peut-être, je ne sais pas, là, je fais la petite bas étage, mais il y a forcément tout ça.
Tu parlais de confiance et je dirais même qu'il y a une ambition plus assumée maintenant chez lui. À la suite de sa finale là, contre Korda, la manière dont il a célébré sa victoire, il y avait comme une rage de vaincre et presque. Il devait gagner dans sa tête. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il était mené d'un set et d'un break quand même, hein. 6-4-3-1, il était mené. Il en balance même sa raquette, mais c'est parce qu'en fait, il sent qu'il a le tennis pour faire basculer la partie et il devient, de ce point de vue-là, beaucoup plus audacieux d'un coup, à la relance, il va même au filet. Et puis, comme tu disais, ses jambes à 35 ans, enfin, c'est complètement délirant, cette manière de défendre qu'il a, cette manière de courir sur toutes les balles. Et quelques chiffres pour montrer à quel point il est incroyable à cet âge-là. Il fait la meilleure saison de sa carrière. Il a 37 victoires sur le circuit cette année. Il n'avait jamais fait ça auparavant.
Et deux titres.
Et deux titres. Il n'avait jamais non plus fait ça auparavant, c'est-à-dire deux titres dans la même saison. Jamais. Et il arrive donc, il va être 23e mondial, ce qui est à une place de son meilleur classement en carrière. Et il reste encore toute la fin de saison indoor. Et on sait que l'indoor, Manarino, il adore ça. C'est une surface et c'est des conditions de jeu
Ouais, il y
qu'il
a très
adore.
peu de points à défendre en plus, ce qui peut potentiellement penser qu'il peut dépasser ce 22e rang
Il a
en
très
titre.
peu de points à défendre et il y a un autre facteur qui pourrait le motiver davantage, c'est le retour d'une certaine émulation côté français. Et ça fait plaisir parce que ça fait 2-3 ans qu'on dit beaucoup de mal, faut le dire, du tennis français, et parce qu'on constate, hein, qu'il y a un trou générationnel après les Simon, Tsonga, mon fils Gasquet. Et là, depuis cet été, il y a un frémissement, comme dirait l'autre. Et Humbert qui fait quart de finale à Pékin aussi, qui fait 3-7 contre Medvedev, hein. Très bon match de Hugo Humbert à Pékin. On a Arthur Fils qui est dans le top 50. Et je me dis que ces trois-là, ils pourraient bien se tirer une petite bourre pour la place de numéro 1 français jusqu'à la fin de la saison. Et ça pourrait donner de bons résultats dans l'automne en indoor et pourquoi pas à Bercy.
Sans oublier Lucas Vernachel aussi, hein, qui n'est pas très
Bien sûr.
loin, dans la même génération qu'Arthur Fils. Tu m'as fait une transition toute trouvée. On va se diriger doucement mais sûrement vers la Chine et ce tournoi du Masters 1000 de Shanghai, qui a donc débuté ce mercredi avec pas moins de 11 Français en lice au premier tour. Donc ce n'est pas le record puisque les États-Unis sont au même quota. Mais il y en a un en particulier, un Français sur lequel nous allons nous arrêter et qui a fait friser l'œil de Deep.
Alors, j'ai envie de vous parler cette semaine d'un joueur dont vous n'avez probablement, peut-être, jamais entendu parler. C'est Terence Atman. C'est un joueur de 21 ans. Il mesure 1,96 m. Et oui, quand même, c'est un grand gabarit. Il est gaucher. Pas mal d'avantages, hein, déjà. Et il est 147e mondial. Et il vient de gagner deux challengers, pardon, pas encore de Grand Chelem.
Non, même pas
Deux
encore.
challengers, donc enchaîner des victoires, de la confiance, on vient de parler de tout ça, vous vous rendez compte, c'est quand même essentiel. Et il est en effet dans le grand tableau, là, maintenant, d'un Masters 1000. Donc c'est un joueur qui progresse énormément, qui a un parcours finalement assez atypique, je ne sais pas, mais en tout cas intéressant, puisque différent, il n'est pas passé par les Pôles France, il a toujours été un petit peu derrière les tout meilleurs. Je crois que c'est la génération de Maillot et Cazaux.
C'est
Il
ça.
était juste derrière toujours. Il a suivi, mais il n'a jamais été intégré dans les structures. parce que toujours un petit peu en retard, tennistiquement, mentalement, physiquement aussi, puisque quand vous mesurez 1m96, parfois vous avez des passages où c'est compliqué, quand vous poussez tout d'un coup, voilà. Et c'est un joueur donc qui a grandi à Boulogne-sur-Mer, qui est arrivé très tôt au club de Boulogne-sur-Mer. J'ai eu, Sébastien, le président du club de Boulogne-sur-Mer,
Superbe.
Franck Pack, passionné de tennis. Ah mais j'insiste, c'est rare, passionné de tennis, qui met en place enfin, un maximum de choses dans son club et dans son département, et qui suit justement et qui accompagne ce joueur, ce projet qui est un projet familial aussi. D'ailleurs, les parents sont très présents, qui l'ont accompagné, qui lui ont fait confiance. En fait, ce qui se dégage et ce qui ressort en fait dans le propos de Franck, c'est que Terence, c'est un joueur qui a faim, qui aime profondément le tennis, qui est convaincu depuis le début qu'il y arriverait, quelle que soit en fait sa progression, quel que soit son parcours, quel que soit son chemin. Il est toujours resté convaincu qu'il y arriverait. Donc des qualités mentales certaines. Après, il y a son gabarit. Donc son jeu, c'est vraiment service coup droit. Aujourd'hui, il est puissant, capable de très bien servir et une très très grosse frappe en coup droit. Et il a eu du mal dans ses jeunes années à maîtriser ses nerfs. Voilà, c'est un joueur caractériel et démonstratif. Presque trop démonstratif. Et il a beaucoup travaillé dessus. Et aujourd'hui, il arrive à se canaliser, à mettre en place bah, son tennis, la preuve. Et le mental suit. Et physiquement, il est très costaud. Et il est déjà top 150. Et promis très probablement un bel avenir. Donc, quand on parle de tennis français, bah, il y a aussi comme ça des belles surprises qu'on n'attendait pas et qui pourraient justement bah, faire la une enfin, avec les autres, là, les Hugo Humbert, les Arthur Fils, parce qu'il n'y a pas de limite au regard de son gabarit, au regard de son envie et de sa passion. Et je trouve que c'est une très belle histoire.
Suivi aussi de près, excuse-moi Maxime, par Robin Boulet, pardon, qui
Exactement.
lui a appris apparemment à canaliser ses émotions pour ce joueur qui est donc un hyper émotif. Juste un chiffre avant de te passer la main, il était 299e mondial en début d'année et 218 avant d'arriver en Chine, avant effectivement d'enchaîner deux victoires en Challenger en 3 semaines qui l'ont propulsé donc, dans ce top 150. Donc, il était un peu juste pour rentrer dans le tableau de Pékin. Ses performances ne se limitent pas au Challenger. Il a commencé donc sur le tournoi ATP au tournoi de Zhuhai en Chine, où il a commencé par un 6-0 au premier set
En Nishioka.
face à Nishioka. Ça ne l'a pas empêché de perdre. Mais ça montre quand même que le gamin, on peut parler de gamin quand même, il en a sous le pied.
Oui, il en a sous le pied et tu parlais de sa progression au classement. Il y a même, si on remonte un tout petit peu plus loin, c'est même encore plus fort, puisqu'il y a 2 ans pile, quand il commençait un peu sa collaboration avec Robin Boulet, il était millième mondial. Millième mondial. Donc en 2 ans, il a gagné plus de 850 places au classement, ce qui est prodigieux. Ce qui est très intéressant dans son profil, tu parlais, Sébastien, de ses problèmes un peu sur le plan mental qu'il a fallu résoudre. Il s'est pas caché. Il a vécu une dépression dont il s'est sorti, et notamment cette restructuration de son équipe en 2021 a beaucoup l'a remis un peu dans le droit chemin. Et ce qui m'intéresse, c'est cette capacité à se mettre face à ces problèmes, à résoudre ce type de problème qui, c'est pas le cas de tout le monde. C'est très difficile. Quand on se noie, c'est très difficile de remonter à la surface. Et lui a réussi à le faire grâce à l'aide de personnes, mais parce qu'il sait aussi laisser aider, entre guillemets. Et ça, c'est un beau message aussi d'espoir pour ceux qui se sentent seuls sur le circuit, qui ont peut-être moins d'aide, moins d'entourage, un entourage un peu distant. On peut s'en sortir, et ce profil-là qui est atypique, c'est beau pour le tennis français aussi.
Après, peut-être que l'expérience nous le dira, mais si les joueurs n'ont pas un entourage présent autour d'eux, c'est compliqué d'arriver quand même à percer, parce que c'est vrai que ce milieu est très très compliqué. C'est quand même Pas évident, sans entourage, c'est quasiment impossible.
Ah, c'est quasiment impossible, on est bien d'accord. Et encore plus quand vous êtes au départ un peu fragile. Donc ça l'est encore plus. Donc d'où l'importance de l'entourage. Et en effet, oui, sur l'entourage, et je crois que c'est Robin, c'est ça, Boulet, je
Robin,
crois,
ouais. Boulet.
le coach. Je sais que j'en ai aussi entendu que du bien sur la manière dont il a su faire face, en effet, à tous ces challenges. Parce que quand vous avez un jeune joueur comme ça, c'est évidemment pas simple. Partant de très très loin, partant de zéro, parce que quand on dit qu'il est millième, il part de zéro, même si c'est un très bon joueur. Hein. Mais il était tellement loin d'être enfin, top 150. Aujourd'hui, le chemin parcouru est déjà conséquent. C'est une très belle trajectoire. Non, moi, encore une fois, j'insiste, mais j'aime beaucoup cette persévérance, ce projet global, familial évidemment, avec des parents qui restent malgré tout à leur place, avec des parents qui vont chercher un entraîneur, qui ne se mettent pas non plus à la place d'eux. Je pense que tout ça, c'est important. Et donc, tout ça, c'est ce qui fait la structure et ce qui fait la solidité de la structure, du socle. Et aujourd'hui, ben, c'est aussi ouais, grâce à toutes ces raisons hein, qu'il en est là. Et franchement, enfin, la taille qu'il fait, enfin, le gabarit, on en a parlé, sa façon de jouer. Et apparemment, donc, je sais qu'on m'a dit d'aller absolument regarder en replay le premier set donc, qu'il a joué. C'est contre Nishioka qu'il a gagné un set, c'est
Ouais,
ça?
6-0.
Il paraît qu'il faut que je le voie. Parce qu'il paraît que la manière dont il a joué est exceptionnelle. Donc, c'est important aussi ça, de pouvoir élever ton niveau de jeu et de pouvoir aller très haut. Ça ne veut pas dire que tu peux le reproduire tout de suite, mais ça veut dire que tu es capable de le faire. Et ça, c'est aussi une chose très importante.
Et ces dernières semaines, il a battu deux top 100 pour la première fois de sa carrière.
Tout à
Il a
fait.
battu Chris O'Connell,
53e.
l'Australien. Ouais, et en juin dernier, c'était Martin Fuchsovics. Donc voilà,
Ouais.
il a du potentiel.
Et ce jeudi, il va se frotter à l'homme à la moustache, Jordan Thompson, l'Australien qui est actuellement 62e mondial. On va dire que c'est dans ses cordes, hein, tout est possible. Les autres matchs à suivre ce jeudi, en attendant donc les têtes de série, on a Arthur Fils qui va débuter aussi son tournoi face à Pavel Kotov. Et Lucas Van Hache aussi contre Diego Schwartzmann sur le court principal, tous les deux. Il y a Alexandre Muller et Quentin Alice sur le court 4 et Grégoire Barrère et donc Terence Atman sur le grand stand 2. Bon, Djokovic n'est pas là, hein, mais sinon tous les cadors sont là. Pour vous, le favori de ce Masters 1000, quel
L'expert,
pourrait
c'est Max, hein.
être.
Franchement, l'expert, c'est
Ouais.
Max.
Qui,
Hein. Ouais.
Selon
Merci
vous,
pour
alors.
la patate chaude.
Alors attends, mais attends, je vais donner une
Attention,
petite stat si ça peut t'aider. Medvedev, donc Daniil Medvedev qui était en finale de Pékin, c'est le joueur qui a remporté le plus de victoires sur dur cette saison. Il en a 42 devant Taylor Fritz, Jannik Sinner, 33, et ensuite il y a Alex de Minaur et Djokovic. Mais bon, voilà.
Alors, je vois pas enchaîner Sinner, par exemple.
Ouais, moi non plus.
Premier point, tu vois,
D'accord.
donc j'élimine.
Sinner, ok.
C'est fou, hein, alors qu'on pourrait très bien dire, ah, il va surfer sur la confiance, sur l'enchaînement, mais je ne le vois
Non.
pas enchaîner.
D'accord.
Est-ce que tu veux que je revienne sur mon sempiternel Zverev?
Mais bien sûr, je veux même.
Écoute, eh ben pourquoi pas?
Ah.
Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? On en a parlé avec Max là cette semaine. C'est un retour en force de Zverev. Il y a plein de réglages qu'il a réussi à mettre en place depuis son retour, compliqué forcément après autant d'éloignement des cours. Mais malgré tout, là, il se passe beaucoup de choses depuis Roland-Garros avec une façon de jouer qui est très intéressante. Il ne retombe pas dans ses travers. Alors certes, il y a évidemment quelques défaites par-ci, par-là, mais avec la manière. Alors ça, on n'aime pas, je sais, on n'aime pas dire ah, mais défaite avec la manière, ça ne veut rien dire. Bah, eh bien si, parce que justement, ça peut lui permettre d'avancer, de retrouver cette fameuse confiance. Et puis à un moment donné, quand tout sera en place et on sait de quoi il est capable, hein, on sait de quoi il est capable, ben clairement, lui, il fait partie ouais, des grands favoris.
Alors
Voilà.
ça va pas être simple, hein, Zverev, parce que donc pour son entrée en lice, il va affronter Roman Safiulin, qui vient de battre Andy Murray ce mercredi. Il est dans la partie de tableau d'Yannick Sinner. Hein. Donc ça va être. Il y aura Ben
Alors je
Shelton
change, alors
sur
je
son chemin,
change, alors
mais
je
Yannick
change.
Sinner ensuite. Mais bon, tu as dit que tu ne
Mais
voyais
non.
pas Yannick Sinner enchaîner.
Mais
Peut-être
non,
à
c'est bon,
cause
je suis. Donc
de Zverev.
justement. Non, 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 non. Voilà, écoute, tu voulais qu'on se mouille. De toute façon, c'est
Oui.
le jeu de la pièce, c'est pile ou face ton truc.
Exactement.
Vas-y, Max.
Et Zverev, pour revenir à ce que tu disais, depuis Roland Garros, c'est le joueur qui a gagné le plus de matchs sur le circuit. depuis Roland-Garros. Et le troisième en termes de pourcentage de victoire, derrière évidemment les deux monstres, Djokovic et Alcaraz. Donc voilà, il est très très en forme.
J'aime bien quand tu appuies ce que je
Voilà,
raconte.
il est
J'aime bien,
très en
j'aime bien.
forme, donc ce n'est pas idiot, loin de là. Non, mais
Là, je te trouve dur.
T'es en train de dire qu'il vaut deux mouillés quand même,
non?
Là,
Non,
je te trouve dur.
non, je pense que je sais pas, je pense que tout dépend chez Zverev beaucoup de son service, et on l'a vu à Pékin, et quand il est capable de servir 90% de première balle sur un set, enfin, il a fait des sets comme ça à Pékin, il était très difficile à arrêter, donc pourquoi pas Zverev, mais je serais plus sur le côté stats, là je suis assez d'accord avec toi Sébastien, enfin d'accord avec les stats, je serais plus pour un Medvedev qui est d'ailleurs le tenant du titre à Shanghai. C'est le dernier, il y a 4 ans, c'était il y a 4 ans, hein. Mais c'est le dernier
Il y
à
a
avoir
4 ans,
gagné
ouais. Ça manque un peu de
à
panache,
Shanghai.
hein. Ça
Ça
manque un peu
manque
de
de
panache, tout
panache,
ça.
ça manque de panache, ça manque de panache, mais je pense que, ouais, il aura l'avantage, Medvedev, par rapport à Zverev notamment, de la fraîcheur, puisque
Et on est bien d'accord qu'on ne parle pas de Carlos.
Non,
Carlito,
non,
non. Ok.
j'assume, mais
J'assume.
au risque de se faire reprendre de voler de manière spectaculaire dans 10 jours par Carlitos, mais je pense qu'il y a un petit replat, comme je disais tout à l'heure, chez Alcaraz. On verra.
On espère qu'il affrontera Grégoire Barrère au deuxième tour, parce que c'est le potentiel prochain adversaire de Carlos Alcaraz. Ça pourrait être assez intéressant à suivre. Bah écoutez, voilà, ça sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. Suivez donc ce Masters 1000 de Shanghai avec tous ces Français qui vont sans doute nous faire plein de choses très intéressantes. Et donc le dernier arrivé, Terence Hatman, issu des qualifications. Arnaud, on te retrouve aux commentaires, je crois bien.
Écoute, tous les matins, 6h30, tout frais.
Ben voilà! Tu nous donnes rendez-vous tous les matins, 6h30. C'est parfait.
Exactement.
Eh bien, écoutez, merci à vous, messieurs, et puis on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas d'aller taper la balle. À bientôt!
Ciao!
Merci à tous!